Aujourd'hui, nous partons en voyage. Je me trouve à la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc. Je suis avec son directeur Thomas Delamarre. Bonjour Thomas.
Bonjour Armand.
On retrouvera dans quelques minutes deux artistes pour nous parler d'une exposition. Une exposition qui s'intitule « Au bout du monde ». Thomas, est-ce que vous pouvez peut-être par commencer pour nous dire mais pourquoi ce nom exactement ?
Alors les titres des expos, ben, en général, c'est inspiré par les œuvres des artistes qu'on invite. Ici, Julia Go et Thomas Turley, qui sont une sculptrice et un sculpteur, qui me semblait intéressant de rapprocher. Ils ont des œuvres, des travaux qui sont différents, des pratiques différentes, mais tous les deux, je trouve, créent des œuvres, des formes, hein, puisqu'ils sont sculpteurs, sculptrices, qui sont très en lien avec le monde actuel, avec les problématiques qui sont les nôtres, qu'on vit très quotidiennement et qu'on a vécu très fortement ces dernières semaines avec des phénomènes naturels, notamment en France les inondations, qui nous parlent du coup des œuvres, qui nous parlent d'un monde qui est un peu fatigué, on peut le dire, fatigué par notre activité, par les formes qu'on crée à un rythme assez effréné, toutes ces formes qui peuplent notre monde, qu'on invente, qu'on produit, puis qu'on relègue surtout beaucoup, notamment toutes ces formes en plastique, hein, on connaît le continent de plastique qui dérive sur les océans, et ça me semblait intéressant du coup de les rapprocher pour parler de ce monde-là, et donc au bout du monde, c'est pas non plus désespéré, hein, ça veut pas dire que le monde est terminé, mais c'est plutôt au contraire, au bout de ce monde-là, quel autre monde aussi on peut inventer, hein, c'est toutes les questions qu'on se pose en ce moment.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces deux artistes ?
Oui. Alors Julia Go, c'est une artiste sculptrice qui, elle, travaille beaucoup avec des matières premières, notamment des matériaux naturels. Elle travaille beaucoup, et ça va être très présent dans l'expo, avec la terre crue, l'argile crue, pour des œuvres qui sont souvent en équilibre très précaire, au bord de l'écroulement, au bord de la dispersion, et elle joue beaucoup sur cet équilibre. Ça fait toute la force, toute la tension de ces sculptures, et ce sont souvent d'ailleurs des sculptures qui sont en mouvement pendant le temps de l'exposition, en tout cas dont le processus interne, on va dire, de dissolution peut être en action pendant tout le temps de l'exposition, avec des formes qui sont en argile crue et puis qui vont être activées par de l'eau qui va être coulée dessus, et donc au fur et à mesure de l'expo les formes vont un peu se désagréger. D'accord. C'est-à-dire qu'il restera des endroits où on reconnaîtra la forme, puis à d'autres endroits elle se sera dispersée avec des flaques d'argile au sol.
Ça serait peut-être intéressant du coup de venir deux fois voir l'exposition, une première fois peut-être au tout début, puis après quelques jours plus tard.
Absolument, même l'expo dure 2 mois et demi, donc même écarté de quelques semaines, il y aura vraiment des vraies différences dans l'exposition, ça c'est sûr, et aussi du côté de Thomas dont je vais parler. Mais en tout cas, voilà, chez Julia, il y a cette idée comme ça de forme, et qui sont souvent aussi des allégories de ce monde dont je viens parler, hein, de ce que nous, êtres humains, on érige sur la surface de la planète, et puis qui petit à petit disparaît, notamment balayé par les forces naturelles, encore une fois, on l'a encore vu récemment, et donc qui vient un peu réfléchir à cette ambition humaine toujours d'ériger toujours plus haut souvent des formes et de leur devenir. Donc Julia, elle travaille beaucoup sur ces questions-là. Thomas Turley, qui est également un sculpteur, lui travaille beaucoup sur une esthétique plus industrielle, voire post-industrielle, c'est-à-dire, mais donc ça revient un petit peu à ces mêmes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on rejette, et quels sont les déchets et qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on les réemploie. Il interroge l'utilisation des matériaux transformés, et il les remet en jeu dans des installations à grande échelle, souvent à l'échelle des salles d'expo qu'il investit, et dans lesquelles il y a souvent en jeu à la fois de la transformation de matériaux, de la lumière, du son. Ce sont souvent des installations qui nous prennent un peu physiquement. Et ici, pour l'exposition, il a pensé tout un travail sur lequel il travaille depuis plusieurs mois, comme un laboratoire de plaquage de cuivre par électrolyse, donc c'est-à-dire de plaquage de cuivre de formes qui sont plongées dans un bain dans lequel il y a de l'électricité, et les molécules de cuivre viennent se greffer sur ces objets, plaquer l'objet. Et c'est un processus, en fait, qui est très présent dans notre monde contemporain. Il est présent dans tous nos téléphones, mais dans tout circuit imprimé. Et donc, ça parle aussi de ce qu'on fait des matières premières aujourd'hui, des matériaux, de la production au niveau mondial. Et il met en scène un peu ce processus.
Et on est d'accord que dans le cadre de cette exposition, donc ce sont deux artistes différents avec un travail différent, mais il y a quand même une certaine complémentarité.
Absolument. Ce qu'on aime bien à la Maison des Arts, c'est réunir des artistes qui ont des pratiques séparées, mais dont les pratiques ont des échos de l'une à l'autre. Moi, j'aime bien pouvoir créer comme ça des rapprochements, à la fois donner tout l'espace à chaque artiste pour déployer son univers, mais que quand on visite l'exposition, on sente quand même qu'il peut y avoir des échos de l'une à l'autre entre une artiste qui travaille l'argile crue et Thomas qui travaille, lui, le cuivre, l'électrolyse. En fait, il y a des échos dans la démarche et dans les questions qui se posent sur notre monde d'aujourd'hui, quoi.
Alors, rapidement, pour décrire l'exposition, donc, si j'ai bien compris, il y a 4 salles, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a 4 salles. Donc, plusieurs dédiées à Julia Go, qui présente 4 œuvres. Et la dernière, la grande salle du fond, qui est dédiée à Thomas Turlep, parce que lui, c'est vraiment une grande installation, tout, voilà, mais avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Et donc, Julia va... Pardon, je...
Ouais, vas-y.
Excuse-moi, tu veux que je décrive chaque œuvre ou...
Je demanderai.
Ouais. Et voilà, donc du coup, Julia présente successivement 4 œuvres, et ensuite, on termine dans l'espace de Thomas, avec cette œuvre un peu son et lumière. Je pense qu'il détesterait que je décrive comme ça, mais je veux dire, en tout cas, cette œuvre qui met en jeu comme ça plein d'éléments et qui vont vraiment, qui prennent physiquement le visiteur quand il entre dans la salle à coup sûr, quoi.
Alors, c'est une exposition, donc le vernissage qui aura lieu à quel moment exactement ?
Alors, le vernissage a lieu le vendredi 13 mars à 19h. Tout le monde est invité, il n'y a pas besoin de carton d'invitation. On accepte tout le monde avec grand plaisir. Et ensuite, l'exposition est présentée du 14 mars au 31 mai, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Et comme toujours, l'accès est libre et gratuit aux expositions.
Très bien. Alors Thomas, ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille vers les deux artistes et qu'ils nous présentent un petit peu leur travail.
Avec plaisir.
Donc on va commencer avec Thomas Turlep. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire un petit peu comment vous êtes devenu sculpteur ?
Alors, donc je m'appelle Thomas Turlep, j'habite à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et je suis devenu sculpteur avec un parcours classique, beaux-arts, voilà. J'ai fait un lycée d'art plastique en Belgique et je me suis très vite intéressé plutôt aux formes en volume, aux machines et surtout aux transformations chimiques de la matière en fait. Donc ça m'a tout de suite plu de plutôt mettre les mains dans la matière et d'opérer des transformations dedans.
Alors votre participation dans le cadre de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà peut-être le titre ?
Alors ça s'appelle Solid Snake, ça m'intéressait, aussi une référence un petit peu... d'ado à un jeu vidéo qui s'appelait Metal Gear Solid, c'était le nom du héros, mais je trouve ça aussi beau dans la répétition de la consonne du Solid Snake, et ça parle vraiment aussi au final de la sculpture principale qui est présentée dans le lieu, qui sont des morceaux de troncs d'arbres que j'ai récupérés après la tempête Goretti dans un parc à Bobigny,
ouais.
Tronc d'arbre qui s'était effondré. Et donc ces troncs d'arbres, ils sont enduits d'une matière conductrice qui est du graphite, et ils sont plongés dans des bains de sulfate de cuivre dans lequel je fais circuler de l'électricité. Et donc en fait, les molécules de cuivre viennent se plaquer sur la matière conductrice et forment une peau de cuivre sur l'arbre qui est plongé. C'est de l'électroplaquage et c'est une pratique qui est omniprésente dans tous les objets qu'on utilise au quotidien, que ce soit les puces électroniques, nos bijoux, tout ce qui est chromé dans l'industrie, en fait, c'est fait avec du courant. Et c'est une technique, au final, qui est millénaire et qui est présente qui commence à exister en Mésopotamie. Donc c'est à la fois quelque chose d'ultra moderne et c'est aussi un savoir-faire très ancien. Le sarcophage de Toutankhamon est plaqué or avec ce procédé-là.
Et alors pourquoi avoir utilisé ce procédé-là ?
Après, quand je me lance dans un projet, c'est toujours un peu marabout, bout de ficelle. Donc c'est des essais en atelier où par hasard j'ai laissé tremper un truc dans un bain, ça a fait un truc. Du coup je me documente dessus, je vois qu'en fait c'est quelque chose qui existe déjà, comme souvent, qui a une histoire. Et puis c'est toujours un mélange entre vraiment des savoir-faire et des légendes, des mythologies, des références religieuses ou scientifiques ou païennes, mais voilà. Après, c'est un tissage entre toutes ces, tous ces éléments-là, quoi.
Donc là, ça va représenter quoi, en fait ? Vraiment, ça sera en un seul bloc ou c'est vraiment des petits éléments ?
En fait, c'est des petits éléments parce que j'étais tenu par la taille du bain et ouais. aussi par la fragilité des pièces, parce que la peau de cuivre, ce que, je dis, que j'appelle la mue, parce qu'il y a vraiment aussi ce côté de mue du serpent, elle fait 1 mm d'épaisseur. Donc 80 cm, c'est la limite qu'on peut avoir avant d'avoir quelque chose qui s'effondre sur lui-même. Mm-hmm. Donc c'est aussi pour des questions pratiques, mais aussi elles seront présentées sur des petits trépieds, comme où une de mes références, c'est le musée de l'Acropole à Athènes, où avant, quand on présentait des sculptures antiques, on avait tendance à refaire les éléments manquants en plâtre pour présenter l'ensemble de la sculpture. Et avec la nouvelle scénographie du musée, ils ont pris le parti de ne montrer que les fragments qu'ils avaient, mais de les présenter dans l'espace tenu par des sortes de petits supports mm-hmm. qui laissent aussi, avec le vide, deviner ce qu'il y avait de la sculpture en entier. Et en fait, ça marche vachement bien. C'est-à-dire qu'avec un bout d'épaule et un genou, on peut quand même s'imaginer une sculpture antique dans son entièreté, mais par le vide aussi.
Là, je vois que vous avez mis des espèces de petits pieds, c'est ça, en
ouais,
fait ?
Ouais, c'est des petits pieds imprimés en 3D qui vont me servir à replacer le corps du serpent et à le faire onduler le long de la plateforme.
Donc là, on est au moment de l'installation, ça demande combien de journées de travail pour l'installation et la fabrication ?
Bah, ça ouvre le 13, donc on va dire qu'on est le 3, donc on va avoir 10 jours.
Ouais. Alors je vois aussi dans la pièce, il n'y a pas uniquement ces éléments-là, vous avez aussi donc des plexiglas qui sont sur notre gauche et notre droite, est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu ?
Donc en fait, c'est des gravures faites sur deux plaques de plexiglas qui sont l'une derrière l'autre, et avec un système électronique Arduino, qui sont des petits microcontrôleurs, je contrôle des bandes LED qui allument les plaques par intermittence et à une vitesse différente, ce qui fait que ça crée une animation, en fait. Les deux dessins sont proches, mais ils sont quand même suffisamment différents pour que l'image vibre et qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre du cinéma ou du dessin animé dans l'espace. Et les dessins eux-mêmes reprennent tout un univers et un imaginaire alchimique, magique du serpent, et mélangé à des diagrammes de trading qui représentent le cours du cuivre.
D'accord. Et donc là, ça va clignoter, il y a une vitesse spécialement rapide, lente, ça commence à se passer ?
Ça va s'alterner, j'ai pas encore fait le code, mais l'idée, il y a une fréquence qui est presque une fréquence stroboscopique qui est hyper intéressante parce qu'elle met presque mal à l'aise, en fait. Ouais. Elle a un effet physique sur la personne, mais elle peut être aussi dangereuse pour des personnes épileptiques, ou même quand on n'est pas épileptique, au bout d'un moment, ça rend un peu fou. Donc l'idée, c'est de l'amener, celle-là, un petit peu en climax, quelques secondes, et après de faire jouer différents rythmes pour que aussi on n'appréhende pas le dessin du tout de la même manière selon la vitesse à laquelle il évolue, quoi.
Alors Thomas, votre travail, sinon on peut le retrouver, vous avez peut-être un site internet ou quelque chose
Oui, c'est mon nom.net, thomasturlet.net.
Vous avez d'autres expositions prévues peut-être dans la région ou en dehors
Pour le moment, non. C'était le gros projet de l'année.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne installation, Thomas.
Ouais, merci.
Je suis avec Julia Gau. Bonjour Julia.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu à nos auditrices et auditeurs et nous dire comment vous êtes devenue sculptrice ?
Bon, tout simplement, en école d'art, j'ai commencé à faire du volume et c'est principalement ce qui m'a plu, la matière, la plasticité des matériaux, leur transformation. Et moi, généralement, je fais des sculptures qui peuvent s'effondrer, se déliter et s'éroder pendant le temps de l'exposition et c'est ce qui me plaît. Ouais. C'est que ce soit pas une forme fixe, mais une forme plutôt mouvante.
Il y a une matière qui vous plaît plus qu'une autre ?
La terre, sans aucun doute.
Ouais. Alors du coup, ça fait longtemps que vous faites des expositions, ou c'est la première ?
Non, j'ai eu la chance d'être exposée plusieurs fois dès mon diplôme.
D'accord.
J'ai été sélectionnée à la sortie d'école à un salon qui s'appelle le Salon de Montrouge dans le 92,
ouais.
Et qui est une exposition qui est assez vue. Mmh. Et à partir de ça, j'ai été invitée régulièrement à présenter mon travail.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail ici, du coup ? Donc, si j'ai bien compris, il y a quatre éléments, c'est ça ?
Exactement, il y a quatre œuvres qui sont des œuvres que j'ai créées pour l'exposition et d'autres que j'ai réadaptées, que je montre différemment pour l'exposition. Et je dirais que la ligne qui relie tous ces projets, ça a été cette question du territoire d'Écosse.
Ouais.
Du territoire karstique et comment l'eau vient sculpter, façonner, fragiliser modeler tout un territoire comme sur celui d'Écosse. Et du coup, l'ensemble des pièces parle d'une relation tumultueuse entre l'eau, la terre, la gravité. Et voilà.
Alors, donc, sur la première œuvre, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, il s'agit d'une œuvre que j'ai faite pour l'exposition qui s'appelle « Les eaux débordées » et qui est une carte que j'ai créée à partir de différentes cartes qui m'ont été fournies par un hydrogéologue et un géologue qui présentent les différentes zones de tension dans ce territoire karstique. Mmh. Et j'ai utilisé en fait la technique de la photogravure et de l'eau forte, qui est une technique utilisée traditionnellement en gravure, qui consiste à plonger les plaques de cuivre dans l'acide. Et l'acide vient ronger la matière, et ensuite, traditionnellement, on encre cette plaque pour imprimer. Sauf que là, moi, je garde ces plaques qui ont été mordues par l'acide comme étant l'œuvre, la matrice. Ce qui me plaît, c'est de faire le parallèle entre l'acide qui vient mordre le cuivre et les eaux de pluie et les eaux de cours d'eau de surface et souterrains qui viennent sculpter et fragiliser les plateaux de calcaire.
Donc du coup, c'est le territoire de Qajar, c'est ça exactement ?
Entre autres, ouais, c'est une partie d'Écosse.
On retrouvera du coup différentes dans chaque plaque, on va dire, ouais. Une partie du territoire, c'est ça ?
Exactement, Rocamadour à Qajar.
Ça sera sous quel format ? C'est A4, c'est ça à peu près ?
Ah non, ça fait à peu près 130 par 100.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Donc là, on se trouve actuellement au niveau de la deuxième œuvre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Je vois qu'il y a plein d'objets. C'est quoi exactement ?
Alors, c'est une installation qui s'appelle « Où le désert rencontrera la pluie ». Et c'est un ensemble de contenants d'eau, ouais, qui sont en plastique. Donc des bouteilles de différentes tailles, différentes formes, des arrosoirs, des jerrycans, des bonbonnes que j'ai moulées et ensuite que j'ai tirées en argile que j'ai laissée crue. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'est de faire comme ça une grande collection des nouveaux vases contemporains avec ce grand parterre qui présente toutes ces formes qui sont ici une sorte de contre-fonction de ces objets qui, ouais, normalement sont là pour pouvoir contenir de l'eau. Ici, forcément, ils sont d'une trop grande fragilité, étant donné que l'argile n'est pas cuite, elle, ouais, est laissée crue.
D'accord.
Et ensuite, au fur et à mesure de l'exposition, les pièces vont être activées, c'est-à-dire que je vais remplir, ou quelqu'un va remplir ces formes d'eau. Et l'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va venir progressivement ramollir la terre, fissurer la forme, et au fur et à mesure, comme ça, les bouteilles vont s'effondrer progressivement, redessinant un nouveau territoire, en fait, sur ces...
Et alors, vous allez mettre de l'eau, mais forcément à rabord, au milieu, ou il y aura un schéma particulier au niveau du niveau de l'eau à l'intérieur de chaque objet ?
Je pense que je vais les remplir bien.
D'accord.
Ouais, ouais, à 100%.
Ouais.
Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment chacune va réagir, parce qu'elles n'ont pas forcément la même épaisseur. Donc, elles vont chacune s'effondrer ou s'éroder d'une certaine manière. Et puis après, elles vont aussi baigner dans l'eau stagnante au sol. Donc, au fur et à mesure, l'argile va se ramollir. Et donc la forme de manière aléatoire, mais moi je ne sais pas exactement comment ça va réagir.
D'accord, donc ça va être la surprise pour vous aussi.
Exactement.
Et alors du coup, vous les avez fabriqués au moment de l'installation ou avant en fait ?
Je les ai fabriqués avant en atelier.
D'accord, très bien. Voilà. Donc là, on est à quelques jours du vernissage, vous pensez être dans les temps ?
Il n'y a pas le choix. Bien sûr.
Du coup, on va passer au niveau de la troisième œuvre du coup. Donc Julia, on est au niveau de la troisième œuvre, donc là, il y a de l'argile par terre, et ça représente quoi exactement ?
Alors c'est une sculpture qui s'appelle Vague de chaleur, et qui est comme on peut le voir, une sorte de vague qui semble sortir de dessous les murs, et qui vient comme ça se répandre sur le sol, comme s'il y avait une coulée de boue qui venait par porosité du sol, comme envahir, inonder l'espace d'exposition. Et initialement, c'est de la terre que j'ai liquéfiée, donc de la barbotine, et que je viens donc déverser de manière à dessiner cette vague. Au début, elle est brillante et liquide, et au fur et à mesure de l'exposition, cette sculpture, elle évolue, c'est-à-dire qu'elle va commencer à sécher. Là, on est déjà à un mi-parcours de la sculpture.
Oui, ça fait quelques jours que vous l'avez coulée, en fait.
Oui, ça fait quelques jours, et surtout, il y a quelque chose d'assez inattendu, c'est que comme le sol, ce sont des tomates, en fait, elles boivent et elles aspirent l'eau. Donc, elles sèchent beaucoup plus rapidement que celles que j'ai pu réaliser précédemment.
On voit bien, c'est vrai qu'à l'œil nu, il y a vraiment des parties qui sont plus sèches que d'autres, là, qui sont plus claires que d'autres endroits.
Oui, tout à fait. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce motif qu'on voit apparaître de craquelure, qui évoque forcément un motif de sécheresse, c'est celui qu'on retrouve dans les lacs asséchés. Et ce qui me plaît particulièrement dans cette sculpture aussi, c'est vraiment l'idée du mouvement, de la transformation au fur et à mesure et de l'interaction de la sculpture avec un environnement donné. Et donc, progressivement, elle va complètement s'assécher.
Peut-être que ce qui serait intéressant aussi, un petit peu comme la deuxième heure, c'est d'aller voir plusieurs fois l'exposition, puisque le séchage, il est tout le temps constamment en mouvement. Peut-être qu'il y aura un moment au début de l'exposition où ça aura une certaine couleur, une certaine teinture, et puis après, différent, un petit peu comme là, on ne peut pas anticiper la forme que les éléments peuvent prendre.
Oui, absolument. Moi, j'aime bien travailler sur des œuvres qui sont vivantes, instables et qui peuvent se transformer pendant l'exposition. Donc, c'est évidemment venir à différents moments, je pense que c'est précieux.
Et je suppose qu'il y aura des moments où vous serez présent pour échanger avec le public ?
Sûrement.
Ouais, on verra ça avec Thomas.
On n'a pas encore vu ça, mais bien sûr.
Donc là maintenant, Julien, nous sommes avec la quatrième œuvre. Alors je vois des briques, je vois qu'elles sont maintenues par des petites billes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on voit ?
Oui, il s'agit d'une sculpture qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien » et qui, comme vous l'avez décrit, se compose de différentes briques, enfin d'un certain nombre de briques industrielles cuites cette fois-ci, et qui sont montées sur des billes de verre transparentes.
Ouais.
Et l'idée de cette sculpture, c'était d'avoir une sorte de forme qui évoque à la fois la construction en cours, la ruine, une forme aussi presque organique du paysage qui pourrait rappeler justement un schéma de montagne. Et cet ensemble est du coup très fragile, étant donné que plutôt que d'avoir du ciment ici, l'ensemble est monté sur des billes qui créent de manière physique une instabilité dans la pièce, qui est donc extrêmement fragile, et qui évoque aussi la goutte d'eau qui circule entre les failles.
C'est un peu l'image que vous avez souhaité diffuser avec ces billes ?
Absolument. Et dans ce territoire-là d'Écosse, qui est donc un paysage qui est sculpté par l'eau de la pluie, goutte après goutte, qui vient s'insérer et circuler dans chaque faille et chaque fissure de manière à progressivement créer des gouffres, des rivières souterraines. Enfin, l'idée du mouvement au sein d'une matière, c'est quelque chose qui m'intéresse ici.
Et alors, cette œuvre-là, pour le coup, vous n'avez pas prévu de mettre une cascade d'eau pour... Non.
Non, celle-ci, a priori, elle ne bougera pas. Elle évoque le mouvement, mais elle ne bougera pas dans le temps. Enfin, j'espère.
Julie, est-ce que vous avez d'autres expositions prévues un peu plus tard dans l'année ?
Oui, absolument. Là, j'ai une exposition en cours à Paris avec une autre artiste qui s'appelle Darta Sidéré sur une invitation de Clara Darazon et une autre qui est prévue à Milan, mais je n'ai pas encore les dates bientôt, début avril, et une autre encore à Paris, début avril.
Est-ce qu'on peut vous suivre sur un site internet ou quelque chose sur internet ?
Oui, j'ai un site internet, juliago.com, et aussi sur Instagram.
Très bien, voilà. Merci.
Merci à vous.
De retour avec Thomas, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce qui va se passer autour de l'exposition, les différents événements que vous proposez ?
Oui, absolument. Alors, donc, on l'a déjà dit, mais le premier événement, c'est le vernissage, l'ouverture de l'exposition, vendredi 13 mars, 19h. Tout le monde est invité, et surtout parce que c'est en présence des artistes que les artistes ne vivent pas à Cajar. Donc après, ils vont retourner chez eux, dans leurs ateliers ou ailleurs pour aller organiser d'autres expos. Donc c'est vraiment le moment pour les rencontrer, leur poser des questions. Mais après, c'est l'équipe de la Maison des Arts qui est là pour accompagner les visiteurs. Il y a toujours une personne à l'accueil qui prend en charge cette médiation sur l'exposition. Donc les personnes qui viennent peuvent leur poser toutes les questions imaginables sur l'exposition. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et puis on a aussi des visites commentées tous les samedis à 16h.
Ouais.
Donc là où on est accompagné par une médiatrice pour découvrir les expositions, qui parle aussi des artistes. Donc là, c'est vraiment une visite plus complète. Tous les dimanches, on propose ce qu'on appelle les dimanches en famille. Donc là, c'est des jeux et des manières de découvrir l'exposition en famille, en autonomie. Donc là, la médiatrice sur place peut expliquer un petit peu comme ça fonctionne. Mais après, ce sont les familles, donc les parents avec les enfants, qui découvrent l'exposition en jouant à des jeux, en répondant à des questions. Voilà, et donc ça, c'est mis en place tous les dimanches, donc de 14h à 18h.
D'accord.
Ensuite, le premier événement... C'est un événement qui est récurrent chaque année, qu'on mène avec l'école de musique, donc ARESEN, le centre d'enseignement artistique du pays de Cajarl, avec qui on collabore depuis 4 ans, et où on propose aux élèves de la classe d'improvisation de l'école de musique d'imaginer un concert dans les espaces d'expo, inspiré par l'expo. Et donc c'est un travail qu'on mène avec eux, donc qui dépasse le soir du concert, puisque le travail a déjà commencé. Notre responsable du service des publics, Marie Deborne, va à l'école de musique leur présenter le travail des artistes qu'elle a fait au mois de janvier. Elle leur a expliqué un petit peu comment ils travaillent, leur processus de travail, le type de matière, tout ce qui peut un peu résonner d'une manière musicale. Les matériaux, quel son ça peut faire, les processus, ces histoires chez Julia Gaud, d'écoulement, d'écroulement, qu'est-ce que ça peut donner sur des percussions. Chez Thomas, l'histoire des bains d'électrolyse, du clignotement du plexiglas, toutes ces choses-là. Et ensuite, ils imaginent un peu ils commencent à imaginer des morceaux, des musiques, et puis ils viennent rencontrer les artistes le jour du vernissage. Ouais. Donc ils vont pouvoir échanger avec eux, découvrir l'exposition. Et ensuite, le 27 mars, à 18h, on présentera donc ce concert. Donc c'est en général, ça prend place dans différents endroits dans la Maison des Arts, en dialogue avec les œuvres qui sont proposées. Voilà, donc ça c'est un beau projet qu'on mène chaque année.
Donc c'est le 27 mars, c'est ça ?
27 mars, absolument, 18h. Ensuite, on présentera le 29 mai, une danse ancienne, Cajarl, qui est lui aussi un projet récurrent, puisque c'est un projet qu'on mène depuis 4 ans avec le chorégraphe Rémi Héritier et un groupe de contributrices, donc des personnes, des habitantes de Cajarl et des alentours, qui ont créé avec le chorégraphe Rémi Héritier une danse pour un endroit spécifique de Cajarl, qui est la place de l'ancienne gare, qui est d'ailleurs juste également la place de l'école de musique, de ARESEN. Et l'idée, ce que Rémi a proposé à ce groupe, c'est que, en s'engageant dans la création de cette danse, le groupe s'engage, toutes ses participantes, à danser cette danse tous les ans au même endroit pour toujours, comme un nouveau rituel, ou en tout cas en posant la question de est-ce qu'on peut créer comme ça, presque de toute pièce, un nouveau rituel, hein, comme les carnavals d'antan, mais ces rituels ont disparu quand même petit à petit de nos vies, il en existe encore, mais c'est cette question un peu que pose Rémi avec ce projet. Donc tous les ans on présente une représentation d'une danse ancienne. Le groupe se retrouve chaque mois pour travailler, présente des fois aussi le travail aux élèves des écoles maternelles et élémentaires. Il y a beaucoup d'interactions tout au long de l'année, mais il y a aussi un rendez-vous par an, et donc là ce sera le 29 mai, et on a proposé cette année une soirée en deux temps qui va être une très belle soirée, puisqu'on aura à la fois ce travail-là du chorégraphe Rémi Héritier et des contributrices d'une danse ancienne. Et puis ensuite, on propose un concert d'un musicien et compositeur qui s'appelle Jacques Puech, qui est un musicien qui travaille sur le répertoire traditionnel des musiques du centre de la France et des musiques occitanes. C'est un des cofondateurs d'un ensemble qui s'appelle la Novia, un ensemble passionnant qui justement a revisité ce répertoire traditionnel. Des instruments traditionnels aussi, hein, de la cabrette, de la vielle à roue et tous ces instruments anciens, mais en y apportant aussi ce qui ont fait leur formation, et notamment pour Jacques, qui est une formation plus contemporaine, donc avec des sonorités plus contemporaines, mais qu'ils explorent sur la vielle à roue, sur la cabrette. Et donc Jacques va donner un concert solo à la cabrette, d'un ensemble de musique de ce répertoire vernaculaire mélangé à des sonorités plus contemporaines, et on trouvait que c'était intéressant de le faire avec une danse ancienne, puisque là ça interroge aussi cette question du rituel, mais donc des rituels musicaux chantés qui nous viennent de très loin et qui sont encore vivants, vivaces aujourd'hui. Et pour clore la soirée, Jacques Puech invite Rémi pour un duo musique et danse en partie improvisée pour cette soirée-là, qui sera créée spécialement pour l'occasion, pour clore la soirée. Voilà.
Très bien. Autre chose de prévu, peut-être un petit peu plus avant l'été ?
Alors, pour le temps des vacances scolaires prochaines, c'est-à-dire les vacances de Pâques, dans le cadre de l'exposition Au bout du monde, on organise, comme à chaque période de vacances scolaires, des ateliers pour les enfants, qui sont toujours des ateliers qui mêlent à la fois visite de l'exposition, à la fois visite expliquée, mais beaucoup c'est une visite sensorielle, on va dire, et puis atelier de pratique, hein, donc les enfants produisent des formes ou des images qui sont inspirées par les pratiques des artistes, et donc ça a lieu tous les mercredis, donc, enfin, en l'occurrence là pour les vacances de Pâques, les mercredis 22 et 29 avril pour les tout petits, donc là c'est les 2-4 ans, et les jeudis 23 avril et 30 avril pour les 5-12 ans.
Très bien.
Voilà.
Thomas, où est-ce qu'on peut retrouver le programme complet de toutes ces animations ?
Eh bien, comme toujours, sur le site internet magcp.fr, mais aussi sur Instagram, Facebook et même LinkedIn.
Eh bien, grand merci à vous de m'avoir accueilli à la Maison des Arts.
Ouais, merci à vous, Armand.